Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Bien, la première, dans la première partie de cette émission, nous allons parler emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer plus d'emplois pour les jeunes en République démocratique du Congo? Yves-Daniel Ngavan, coach en organisation des entreprises. Et notre invité, Yves-Daniel, sera en ligne tout à l'heure. Des questions et préoccupations par rapport à l'emploi, qui est d'ailleurs parmi les piliers du gouvernement du second mandat du chef de l'État. Nous allons en savoir plus avec notre invité tout à l'heure. Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net ou composez les 099 706 99 64. Et puis voilà, et écrivez-nous aussi à service@radiookapi.net. Et puis le deuxième sujet du jour, nous allons parler de la configuration du gouvernement actuel. On parle des ministres, vice-ministres, voilà, et ministres d'État, ministres délégués, etc. Alors, quels sont les rôles des uns et des autres? Comment éviter les conflits des compétences? Eh bien, professeur Sylvain Chicoz, expert en décentralisation, sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Tati Mapoukou assure la coordination. Feza Bongonda, Julie, est à la réalisation. Pierre Diassinois, à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler emploi aujourd'hui. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer plus d'emplois pour les jeunes en République démocratique du Congo? Vous savez, l'accès à l'emploi des jeunes, qu'ils soient qualifiés ou pas, relève d'un parcours des combattants à Kinshasa ainsi que dans les autres provinces du pays. Beaucoup de jeunes qui terminent les études se retrouvent au chômage. Ils n'ont pas d'emploi. Le taux de chômage est très élevé dans notre pays. Cependant, l'emploi est parmi les piliers, n'est-ce pas, l'un des objectifs à atteindre du deuxième mandat du chef de l'État et même du gouvernement de la RDC. Nous savons que l'ONEM, l'Office national de l'emploi, avait annoncé la création des 6,4 millions d'emplois des jeunes en République démocratique du Congo en 5 ans. Alors, comment est-ce que cet objectif sera concrétisé, etc. Quelles sont les stratégies pour arriver à créer plus d'emplois pour les jeunes? On en parle avec Yves-Daniel Ngavan. Il est coach en organisation des entreprises. Voilà, Yves-Daniel Ngavan, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous parlons emploi. Alors, quel état des lieux vous faites de l'emploi aujourd'hui dans notre pays?
Merci beaucoup, je dis pour cette invitation. Rien n'a changé. À mon avis, le secteur de l'emploi reste parent pauvre. Rien n'a changé, à mon avis, parce que en dépit de la bonne volonté exprimée par le chef de l'État, qui a fait de ce secteur le premier de ses 6 objectifs, mais nous continuons à constater une sorte de léthargie. En dépit également de quelques soubresauts que nous avons vus avec l'ONEM ces derniers temps et que nous pensons que ça pourra être consolidé, aussi longtemps que plus de la moitié de notre population serait au chômage, nous ne pouvons pas dire que le secteur de l'emploi marche en RDC. Donc tous les jours nous avons de nouveaux chômeurs, diplômés ou pas, et ce qui fait que la situation est intenable et la situation est cataclysmique, parce que non seulement qu'on ne voit pas venir des actions concrètes, mais aussi en termes de perspectives, on sent que toutes les promesses semblent être de chapelet de bonnes intentions et que le peuple est quand même un peu fatigué d'écouter ces gros chiffres. Mais on a besoin de savoir un peu à quel rythme, dans quel secteur, par quel mécanisme, et on va y arriver, parce que 5 ans, c'est pas beaucoup. Nous sommes déjà au mois de juin, donc ça nous fait déjà la moitié de l'année qui est partie, donc il nous reste 4 ans et demi. Donc voilà, d'entrée de jeu, je peux dire que le secteur de l'emploi souffre encore et souffre énormément, et que tout ce que nous attendons, c'est des réponses concrètes et non de discours ou de bonnes intentions.
Oui, déjà l'ONEM a annoncé l'objectif de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 5 ans. D'après vous, quelles sont les stratégies à mettre en place pour concrétiser cet objectif?
Je doute d'abord de ces chiffres. Je crains que ça soit un chiffre fantaisiste, juste pour faire plaisir à l'opinion. Je pense que pour être un peu plus concret, n'allons pas dans des chiffres qui font rêver, allons dans le pragmatisme. Aujourd'hui, nous devons d'abord commencer par identifier sérieusement le nombre de demandeurs d'emploi que nous avons dans ces pays, secteur par secteur, pour dégager un répertoire national et qui nous donne une idée sur le taux exact de chômage que nous avons, mais aussi de l'autre côté, voir en termes de perspective, les universités nous fournissent en moyenne combien chaque année de potentiels chômeurs, et de savoir déjà quels sont les mécanismes à mettre en place en amont au niveau des universités, pour définir un plan de contingence de façon à ce que qui ne rentre pas dans le chômage, mais qui rentre directement dans les emplois qui seront préparés. Ça, c'est de un. Aussi longtemps que nous n'avons pas un répertoire national numérisé, stratifié des emplois et des compétences de manière rationnelle, il est difficile de nous balancer des chiffres comme ça, parce que l'ONEM aujourd'hui je peux le mettre à défaut, qui me donne les chiffres exacts des chômeurs que nous avons dans ces pays. Je pense qu'ils n'ont pas. Alors que vous ne pouvez pas faire une bonne planification aussi longtemps que vous n'avez pas fait une analyse, une étude sérieuse de la situation avec des indicateurs clairs et probants avant de se jeter à l'eau. Donc, je considère que ces chiffres-là sont plus ou moins publicitaires. Jusqu'à ce que moi je suis un expert, jusqu'à ce qu'on m'étale noir sur blanc, secteur par secteur, progression année par année, le profil et les compétences requis emploi par emploi, que l'ONEM va créer dans ces 6 millions, et à ce moment-là que nous allons croire à cela. De deux, il faudra absolument aujourd'hui qu'on identifie le différent secteur promoteur d'emploi dans notre pays. Parce que tout le monde parle de l'agriculture, mais l'agriculture que nous avons aujourd'hui, c'est une agriculture de subsistance. C'est une agriculture intentionnelle. Tout le monde parle de l'agriculture, mais on n'investit pas assez dans cette agriculture. On doit passer de la simple agriculture à l'agriculture intelligente aujourd'hui qui crée de chaînes, de véritables chaînes de valeur. En ce moment-là, on peut essayer de voir à quelle hauteur notre agriculture peut générer des emplois. Mais c'est très simpliste de dire non, avec l'agriculture, on va créer des emplois. Mais ça fait des années que notre agriculture ne génère pas assez d'emplois. D'ailleurs, les gens qui le font comme moi, fermiers dans mon territoire, se découragent parce qu'il n'y a pas de subventions, parce que il n'y a pas assez de matériel, il n'y a presque pas d'engrais et ni de semences de qualité, surtout quand on est à l'intérieur, pour continuer avec cette agriculture. Donc, il faut qu'on identifie de véritables secteurs pour, qui peuvent booster l'emploi et y mettre de moyens conséquents pour que ces secteurs arrivent effectivement à nous donner à des emplois. Nous avons le secteur du tourisme, nous avons le secteur de pêche et élevage. Nous avons, il y a plusieurs secteurs aujourd'hui, sans compter le secteur du numérique, aujourd'hui qui a un des secteurs qui peut générer énormément d'emplois. Donc, il faudra identifier le secteur. Il y en a plusieurs, mais prendre 4-5 secteurs pour être cohérent, étudier les possibilités que chaque secteur peut générer les emplois et à quelle hauteur et quel type d'emploi qu'on va générer.
D'accord. Un instant, Yves Daniel, on va accueillir les auditeurs. Il y a Clovis qui est en ligne depuis Lubumbashi. Nous parlons de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut pour créer plus d'emplois en RDC? Clovis, bonjour. Bonjour Clovis. Il est en ligne depuis Lubumbashi. Clovis, vous êtes là? Bon, voilà, on va les retrouver dans quelques instants. Nous poursuivrons cet entretien avec Yves Daniel Ngavan. Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net. On va accueillir Justin Nkoulou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jobou. Et je dis bonjour à tous les auditeurs de la...
Bien, vous êtes à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'emploi en RDC?
Je suis à Funguru, mais monsieur Jody, en tout cas, je suis très content pour le choix du sujet.
Oui.
Aucune des provinces de ces 26 de la RDC est pauvre. Vous qui avez eu la chance de piétiner partout dans les 26 provinces, vous n'allez pas me contredire, j'espère, et même avec notre invité. Je prends l'exemple. Il y a les provinces qui sont déjà en production, telles que le Lualaba, les Haut-Katanga. Il y a les provinces qui ne sont pas en production, telles que les Haut-Lomami et d'autres, vous autres, les Équateur. Mais on a créé même des caisses de péréquation pour subvenir aux provinces qui n'ont rien pour démarrer. Et l'argent des caisses de péréquation, ça les aide à imprimer des badges pour faire la publicité du chef de l'État, pour les plaire et voir que nous l'aimons. Or, il y a des secteurs à développer pour donner l'emploi aux jeunes et même aux vieux. Prenons l'exemple du Lualaba, c'est les minerais. Combien le gouvernement a déjà fait des EA pour donner à la population, afin que chacun aille creuser et trouver son argent, ou soit les coopératives sont-ils encadrées par le gouvernement? Je crois que c'est non. Allez dans le Haut-Lomami. Haut-Lomami est très riche puisqu'il a deux lacs, Upemba et deux petits lacs qui s'allaient, qui zanga par-ci par-là. Et on a développé le secteur là. Non. L'agriculture, Haut-Lomami a des terres arables. Et est-ce qu'on a investi, le gouvernement a déjà investi dans l'agriculture? Rien. Comment il va donner seulement l'emploi aux enseignants qui peuvent faire même 30 ans pour les retraités, même 40 ans? Et les jeunes qui viennent de terminer les études, comment est-ce qu'ils vont les remplacer après 40 ans pour remplacer un enseignant? Au lieu de développer l'agriculture, là, comme on voit à Kanyamakassi, malgré que c'est diabolisé, mais ça prend beaucoup des employés. On devrait le faire avec les gouverneurs, les nouveaux équipes de gouverneurs. Avec les caisses de péréquation, ils devraient investir et donner l'emploi aux jeunes gens. Sinon, on va aider à rejoindre le 6 axes de Madame Judith Suminwa, qui est la première ministre. Si, c'est très facile. ça ne casse pas les carreaux. Avec cet argent, vous devez vous créer vous achetez des intrants, soit vous créez l'usine de fabrication des intrants, comme notre invité l'a souligné, et peut-être élever des poissons, l'apiculture. Les provinces ne raisonnent jamais en production, ils raisonnent seulement en consommation. Et faire pleurer au gouvernement de Kinshasa que nous vous aimons. On doit l'aimer, le président, par les actes. Et il D'accord. va te surnommer comme Madame Fifi Masuka. C'est à travers les œuvres et les investir. On peut pas te surnommer en imprimant seulement des bâches et tout comme ça. Je n'incrimine personne, puisqu'ils sont encore au début. C'est simple, une orientation que je leur donne. Si nous pouvons relever notre pays, l'emploi est le pilier, en première position. On peut placer l'emploi en première position pour le développement d'un pays. Si on n'a pas l'argent, on n'est pas employé, qu'est-ce qu'on peut faire?
D'accord,
il y a
merci.
Que chômer au village.
Merci beaucoup. Oui. Merci pour ces préoccupations. Yves-Daniel Gavan, quelle est votre réaction par rapport à cela?
Oui, je partage une bonne partie le raisonnement de notre compatriote. Comme je le disais tantôt, le peuple congolais comprend que de plus en plus, nous vivons dans une sorte d'atmosphère de promesses et de bonnes intentions, alors que nous avons besoin du concret. Et pour avoir du concret, on n'a même pas besoin de faire des bruits. On a besoin d'être, se mettre au travail et d'agir de manière efficace et cohérente. Donc, ça ne sert à rien de nous balancer des chiffres, mais nous voulons le voir dans le concret. Et sans et qu'on nous donne des détails au minimum. Je l'ai dit tantôt, le série va commencer par l'enregistrement de tous les chômeurs à travers la République et on aura un répertoire sérieux. Et sur base de cela, on peut déjà voir la tendance et on peut même arriver à donner des chiffres vrais. Parce que aussi longtemps que ça n'a pas été fait, les soi-disant 64 millions ou quoi, pour moi, c'est des chiffres pour faire plaisir à ceux qui le donnent.
Bien, alors Yves-Daniel Gavan, quand on parle de l'emploi...
Je devais ajouter quelque chose.
Oui.
Oui.
Allez-y.
Je devais ajouter quelque chose. Quand on parle des emplois, on parle seulement de créer des emplois. Mais il y a aussi des emplois qui existent, mais c'est dans quel état? Quel est l'état aujourd'hui de nos travailleurs? Il ne faut pas créer des emplois alors que ceux qui sont même déjà dans l'emploi souffrent. On n'en parle pas assez de la misère de différents travailleurs dans tous les secteurs dans ces pays. Ils passent des moments difficiles, les salaires n'est pas cohérent, le niveau de vie est intenable, mais il faut aussi penser à cela. Parce qu'on ne peut pas vouloir créer sans améliorer l'existant. Mais il faut aussi encourager l'entrepreneuriat, comme l'a dit cher ami. L'entrepreneuriat aujourd'hui devient un simple slogan, alors que grâce à l'entrepreneuriat, on peut effectivement créer des millions et des millions d'emplois. Sans oublier les modèles, par exemple, de service national. Pourquoi on ne prendrait pas les modèles de service national, étendre ça dans toutes les provinces, exiger à tous les gouverneurs de mettre en place les services nationaux, de prendre tous les jeunes qui n'ont rien à faire, le matin, on les prend, on les amène travailler, et les soirs, ils reviennent, et ils sont payés et ils produisent, selon la diversité de chaque province. Pourquoi on ne part pas avec des modèles aussi concrets et pratiques, au lieu de rester dans des forums, dans des discours, dans des longues thématiques. Or, notre peuple nous attend avec du concret. Voilà ce que je pouvais ajouter.
Alors, Yves-Daniel Gavan, quand on parle de la création d'emplois, bon, il y a aussi l'auto-emploi. Et il n'y a pas que le gouvernement qui est censé créer. Les jeunes aussi peuvent eux-mêmes devenir créateurs et patrons de leur propre entreprise.
Effectivement, je parlais de l'entrepreneuriat tantôt. C'est de l'entrepreneuriat qui est le véritable berceau de l'auto-emploi. C'est vraiment un monde où chacun arrive à apprendre et à mettre en application ce qu'il apprend pour ne pas rester l'éternel quémandaire d'emploi. Mais aujourd'hui, quel est l'état de l'entrepreneuriat dans notre pays, à part le brin des formations à gauche, à droite? Combien d'entrepreneurs sont réellement accompagnés dans ces pays? Combien? Donc, quand vous entendez des chiffres que la Banque mondiale, que ceci donne, finance, c'est beau. Mais dans le concret, qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous avons le FOGEC qui essaye tant bien que mal. Mais quel est le résultat jusqu'à aujourd'hui si on doit évaluer toutes ces choses? Je pense que ce sont des bonnes initiatives à consolider, mais nous devons quitter la culture des discours et des promesses pour aller dans les actions sans faire de bruit. Et notre peuple va nous juger selon les résultats. L'État a l'obligation, comme l'article 36 de notre Constitution dédie, l'État, c'est le premier pourvoyeur des emplois. Et il peut le faire soit lui-même en créant des structures qui donnent des emplois, mais aussi en améliorant le système, en assainissant le climat des affaires pour que les investisseurs arrivent avec des capitaux qui créent des sociétés pour donner de l'emploi, mais aussi en accompagnant les entrepreneurs locaux qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais qui se voient parfois bloqués, manque de financement, manque d'accompagnement, ou encore avec le mécanisme ou de fiscalité, de parafiscalité parfois, et qui complique. Toutes ces choses, ce sont des choses connues, je dis, que nous revenons presque tout le temps en train de dire, mais nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place, ils doivent tirer les leçons des erreurs des autres pour ne plus tomber dans le même sillage, mais de nous proposer un autre narratif qui fera ce que demain, chaque mois, on peut avoir un bulletin de création des emplois, secteur par secteur, et les gens peuvent postuler et on publie les emplois créés et les emplois contractés chaque mois. Et c'est possible, on peut faire ces mécanismes-là pour voir un peu la progression des créations des emplois. Au lieu qu'on nous donne des chiffres comme ça et qu'on a du mal à évaluer, je pense que ça reste vraiment publicitaire, comme je l'ai dit.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo? C'est le thème de Capi Service d'aujourd'hui. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Alors, vous avez dit... Bien. Yves Daniel, vous avez dit tout à l'heure qu'il est important de créer les emplois secteur par secteur, avoir un répertoire national des chômeurs. Je pense que l'ONEM a déjà une base de données par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant créer, identifier les besoins et commencer à créer les emplois secteur par secteur?
Ah, merci. Si l'ONEM a déjà une base de données et dans ce sens, nous, ça nous ferait énormément plaisir. Parce que ça a été un souhait et que nous demandons à l'ONEM de tendre cela, parce que je dis tu as fait une bonne partie de la République. J'étais accompagné en plusieurs missions aussi. Je peux te dire qu'il y a des coins où l'ONEM n'existe pas. L'ONEM n'existe pas sur une bonne partie de la République, et je me pose la question, s'ils ont enregistré les chômeurs, peut-être les chômeurs de Kinshasa. Parce que quand vous allez à Inongo ou à Tandumbelo ou à Mouchi, les chômeurs de Mouchi sont effectivement dans la fameuse base de données de l'ONEM. On ne peut pas faire une base de données fantaisiste. C'est là où je dis on doit vraiment être très sérieux. Je demande souvent aux gens de l'ONEM, nous ne sommes pas contre les amis de l'ONEM, mais ils doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité, parce que ils sont dans un secteur qui touche à la vie de tous les Congolais de manière directe ou indirecte. Et nous ne pouvons pas nous croiser les bras, et eux sont là en train de gagner, ils touchent leur salaire tous les mois pour travailler de façon à créer des emplois pour les autres. Et les autres n'ont pas d'emploi, mais eux continuent à avoir les salaires, on ne va pas les laisser tranquilles. Donc, nous allons continuer à leur demander d'être très sérieux dans ce qu'ils font. Cette base de données, si ça existe, il faut que ça soit élargi sur l'ensemble de la République. Il y a des méthodes aujourd'hui qui ne demandent pas aux gens d'aller chercher la fameuse carte jaune là de l'ONEM, et qui pose d'ailleurs problème. Il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui avec les numériques. Partout où on est, quelqu'un peut s'enregistrer de manière correcte dans une base de données. Et c'est en ces moments-là la manière dont on va disposer la base de données. L'identifiant aura déjà la possibilité de nous fournir assez d'informations pour que nous soyons en mesure de le lister dans un secteur X ou Y. En ce moment-là, lorsqu'on va ressortir les données, on va ressortir ces données dans la base, on va analyser, on pourra faire des corrélations pour voir combien de médecins avons-nous, combien d'ingénieurs civils avons-nous, combien d'électriciens, combien d'ingénieurs agronomes, ainsi de suite. Et au regard du volume qu'on aura, on voit là où il y a plus de problèmes, dans quelle province où on a pas assez de médecins et qu'on peut envoyer. Et on crée des emplois pour les médecins qu'on doit affecter dans ces provinces. Dans quelle province où on a plus besoin d'agronomes? Dans quelle province on a besoin de ceci? Ainsi de suite. On peut commencer à positionner comme ça des compétences selon les besoins relatifs à chaque province, dans chaque secteur, et ça nous donne une idée que d'ici 5 ans, la République aura besoin de plus ou moins 5000 médecins. D'ici 5 ans, la République a besoin au moins de 3000 ingénieurs agronomes. D'ici 5 ans, la République a besoin au moins de 2500 ingénieurs civils, ainsi de suite. Et c'est ce travail que nous devons entendre. Si nous n'avons pas de boussole, on navigue à vue et les emplois sont créés à l'insu de ceux qui sont censés avoir la boussole pour suivre, et on aura du mal à justifier les chiffres qui sont en train de nous brandir. C'est très simple de donner des chiffres comme ça pour faire plaisir, que ce soit à la hiérarchie ou à la population. Mais ça sera encore plus sérieux de les justifier de manière correcte avec des éléments probants d'analyse. Parce que c'est un secteur qui est vraiment technique, et nous l'avons toujours dit, le secteur de l'emploi, c'est un secteur technique. C'est un secteur qu'on ne doit pas politiser, on doit mettre les gens juste pour les quotas politiques, pour des répartitions. Non, il faudra qu'on trouve de personnes habilitées, et je pense que l'actuel ministre de l'Emploi, avec qui j'ai échangé pendant quelques temps, je trouve que c'est une bonne personne, parce que son parcours, son expérience, il revêt quand même déjà des atouts nécessaires pour assumer ses rôles. Mais il doit beaucoup plus travailler dans la technicité. Il ne faut pas qu'il ne puisse pas se mouiller trop dans la politique. Mais il doit rester technique pour arriver à bien cerner ses secteurs et donner l'impulsion à tous les autres services autour de son ministère, notamment l'ONEM et consorts, pour qu'il lui apporte régulièrement des éléments clés, des éléments techniques et non des simples discours et des intentions.
D'accord, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Godin. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les amis fidèles de la radio de la Côte.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour créer plus d'emplois pour les jeunes en RDC?
Bon, merci beaucoup, monsieur Godin. Vous savez que depuis l'arrivée de son excellence Félix Antoine, il a toujours les soucis que les Congolais se retrouvent où il nous a promis dans le premier mandat. Il va faire des Congolais des millionnaires. On a eu à passer plus de 5 ans, on n'a pas eu à connaître s'ils ont créé combien de millionnaires. Maintenant, avec son deuxième quinquennat, on dit on va créer 6,4 millions d'emplois. Mais il y a autant de questions qu'on se pose, M. Joly. On se demande que ces emplois-là, on va les créer dans quel domaine? Parce que si on regarde vraiment dans notre pays, nous constatons que chaque année, où il y a toujours des demandeurs d'emplois. Si vous regardez aujourd'hui avec l'ONEM, pour trouver quand même des bureaux de ONEM dans toutes les provinces, ça pose un grand problème. Moi, je pense qu'un État congolais pouvait tout d'abord passer à la sensibilisation pour qu'on puisse un peu connaître combien on a de demandeurs d'emploi sur le terrain et quelles sont les entreprises ou bien les sociétés qu'on va employer. Parce que si on parle aujourd'hui de travail, on va employer ces Congolais-là où, dans quelles sociétés, dans quelles entreprises? Ce sont aussi des questions qu'on se pose sur le terrain. Il faut voir aussi ceux qui travaillent aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'ils sont maltraités, leurs salaires, qui ne sont pas payés à l'amiable. Et je pense que la première ministre va toujours avoir un grand travail sur le terrain, parce que dans notre pays aujourd'hui, la sensibilisation pose un grand problème. Connaître que nous sommes combien, quels sont les nombres des gens qui demandent d'emploi. C'est un grand problème. Bon, je pense qu'il faut que notre gouvernement puisse fournir un peu des efforts sur le terrain pour que les Congolais puissent se retrouver plus vite. Mais on sait, il y a encore une autre question que je pourrais demander à notre invité. Et je pense que si dans notre pays, la première ministre, comme elle a proposé qu'on pourra avoir, si c'est Bikin 4, dans 5 ans, on pourra avoir combien, si on répartit 6 Bikin 4 millions d'emplois, chaque année on va employer combien jusqu'à atteindre un peu les chiffres. Parce qu'on a vu, on a déjà eu à consommer plus de 6 mois qu'on a perdu avec l'installation du bureau définitif, avec notre gouvernement qui a posé un peu de problème pour être installé. Je pense qu'on a déjà eu à perdre un peu ce temps-là. Il nous reste que près de 4 années et demie. Je pense qu'à ce niveau, on pourra atteindre vraiment l'objectif, parce qu'à tout moment, on a toujours eu un gouvernement qui arrive avec des programmes, avec de bonnes paroles, avec de bons programmes pour nous dire non, on va atteindre l'objectif avec un budget qu'on a fixé. Il y aura vraiment autant de questions qu'on pourra toujours attendre pour ce nouveau gouvernement.
D'accord. D'après vous, il faut une grande sensibilisation par rapport à l'emploi. Oui. Yves Daniel Gavan, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à la sensibilisation?
Bien sûr, j'adhère à cette idée, parce que lorsque j'ai dit il faut qu'on enregistre le maximum de chômeurs à travers la République, où ils se trouvent, il faut les sensibiliser. Il faut les sensibiliser pour qu'ils s'enregistrent et en leur proposant des méthodologies assez simples, parce que l'ONEM ne peut pas se déporter partout, mais ils peuvent réfléchir sur les mécanismes, et ça existe. Nous, on en a déjà travaillé. Il y a aujourd'hui des logiciels. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour qu'on arrive à une période donnée à enregistrer le maximum des chômeurs, sensibiliser même dans les universités déjà les finalistes qui puissent déjà se prépositionner. C'est quelque chose d'important, parce que comme je l'ai dit, si nous n'avons pas de données réelles, on ne peut pas faire une bonne planification. Ça sera de l'utopie, ça sera de l'illusion. 64 millions d'emplois, c'est bien beau. Mais nous, on a besoin même d'un million, même 500 000, qu'on voie même 500 000, ça va nous faire plaisir. Ce n'est pas des gros chiffres. Il a relevé tantôt le président de la République qui a vraiment la volonté d'aider la jeunesse et de faire avancer des choses. C'est un grand leader. Il donne une vision. Il dit, je veux qu'à la fin de mon mandat, que nous créions des millionnaires. Il a fait son rôle. Il a donné une vision. Mais c'est à son équipe, chacun dans son secteur, de travailler sur cette vision pour qu'il y ait du concret. Il a dit tantôt, qu'on nous présente les millionnaires qu'on a créés. Ils sont où? Ils sont nombreux de combien? Donc, vous vous rendez compte que nous sommes en train d'aller des promesses ou des intentions en intentions, mais en termes de réalisation, c'est faible. C'est pour cela que nous avons dit cette fois-ci des gens qui accompagnent les chefs de l'État, parce que nous tous, nous les soutenons, nous voulons que les choses changent, parce qu'il a cette volonté, qui ne s'hasarde plus à nous donner des chiffres incohérents qui ne seront pas à mesure de réaliser.
Yves Daniel, s'il faut mener une sensibilisation par rapport à l'emploi, qui doit le faire, comment ça doit se faire, quelle est la cible, etc.
Oui, il y a un ministère. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons un ministère qui a en charge l'emploi et le travail. Et c'est à ces ministères que revient d'aider le pays à avoir une politique cohérente et sérieuse de l'emploi. C'est au ministère, comme je l'ai dit tantôt, le nouveau ministre doit prendre à bras le corps son secteur, parce que c'est le premier objectif de quinquennat du chef de l'État, l'emploi. Et c'est grâce à la politique qu'il doit imprimer que les services et les programmes rattachés à ces ministères doivent absolument se mettre au travail suivant une feuille de route qui doit être rapidement définie avec des indicateurs clairs, identifiables, mesurables et réalistes, que le ministre pourra suivre jour après jour pour voir si les gens ne sont pas en train de dormir ou ils sont en train de travailler pour la création des emplois. Mais l'emploi étant un domaine transversal, il faudra travailler aussi avec le secteur privé, notamment la FEC, parce que la FEC aujourd'hui regroupe énormément des entreprises. Il faut travailler avec la FEC pour essayer d'assouplir un peu les conditions d'accès à l'emploi, mais aussi comment on peut améliorer les conditions de vie des travailleurs, parce que ceux qui travaillent aussi souffrent. Donc voilà un peu, cette sensibilisation doit partir de manière institutionnelle, ça part du ministère vers le programme, vers le secteur privé, mais aussi avec les universités. N'oubliez pas, parce que c'est eux qui nous produisent de vrais chômeurs aujourd'hui, avec des programmes plus ou moins mal adaptés à la réalité, ce qui fait que les gens qui quittent les universités avec les diplômes ont du mal à décrocher de l'emploi. Donc, c'est vraiment une sensibilisation à plusieurs dimensions, pour arriver effectivement à atteindre tout le monde et mettre tout le monde d'accord autour de cette thématique, parce qu'il en est de l'intérêt de tous.
Bien, on va accueillir un autre auditeur. Il s'agit de Trésor Kayeye depuis Kananga, Malanjuranshinga. Trésor, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui. Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, bonjour. Vous êtes à un endroit où il y a du bruit. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de un tout petit peu pour éviter ce bruit-là?
Vous m'entendez pas?
Oui, on vous entend, mais vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de bruit, un Trésor. Bon, allez-y, on vous écoute quand même. Allez-y. Voilà, il n'est plus en ligne. Bien, je reviens à vous, Yves Daniel, mais il y a également un travail qui doit être fait du côté de nos universités par rapport à la création d'emplois. Selon les informations reçues, nos universités forment beaucoup plus de théoriciens, et quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, les jeunes sont butés à d'autres réalités auxquelles ils n'ont pas été préparés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, moi-même, je suis professeur, je suis enseignant à l'université. Ça devient une rhétorique, je dis, ça devient comme l'hymne national. Ça fait des années qu'on dit la même chose et on fait la même chose. Et on pense avoir les résultats différents. Ça, c'est de la folie. Parce que la folie, c'est de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. On ne cesse de dire qu'aujourd'hui, les systèmes éducationnels que nous avons hérités de la colonisation souffrent de beaucoup d'incohérences au regard de l'évolution sur le plan mondial, sur le plan scientifique, sur le plan environnemental, voire même sur le plan sociologique. On ne peut plus continuer à former des gens comme on le faisait en 1912 ou en 1919. Aujourd'hui, nous devons former des gens avec une utilité à la pointe. Nous formons des gens pour que demain, qui soit à même de résoudre des problèmes de la société dans tel domaine, dans tel domaine. Ça ne sert à rien de bourrer aux gens de théorie et leur donner un diplôme à la fin. Et en sortant, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Pourquoi aujourd'hui il y a la corruption dans nos universités? Parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils vont là-bas. Ils pensent qu'il faut donner de l'argent, on te donne des points, tu passes des promotions, et c'est ça, tu deviens un homme dans la vie. Non. Les jours, les gens comprendront que ce n'est pas les points qui comptent, c'est pas de passer des promotions qui comptent, mais j'étudie avec un objectif clair, finir et être utile dans quelque chose dans ma société, au lieu de dire finir, avoir un diplôme et te taper à la poitrine, je suis licencié, on vivra cette situation de manière éternelle. Mais pour qu'on y arrive, qui est le géniteur ou l'encadreur premier du système éducatif? C'est l'État. C'est l'État qui doit travailler avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire pour révisiter le contenu de notre système éducatif. C'est bien, on a eu des réformes il y a une dizaine d'années, en 2004. Nous avons eu, en 2009, d'autres réformes. Actuellement, nous migrons le système traditionnel au système LMD, une bonne chose. Mais où en sommes-nous? Ça risque d'être encore chimérique, parce que quand vous voulez mettre le LMD avec le même enseignant, que vous ne recyclez pas, avec le même syllabus, avec ceci, vous changez les titres des cours, vous changez, vous déplacez tel cours qui était ceci, changez, on a pris les gradués, ça devient L1. Mais c'est pour quelle finalité? Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut un bon mariage entre le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Le ministère de l'Emploi doit nous proposer les besoins réels des emplois qu'on veut créer dans ces pays secteur par secteur, avec des compétences requises, et il balance cela avec les universités, et les universités arrivent à adapter le contenu de son enseignement au regard de ces besoins-là. Ce qui fera à ce qu'on peut déjà faire une progression, que cette année, on aura autant de diplômés, et ces diplômés, quand ils terminent, voici les emplois auxquels ils sont censés y aller, dans tel secteur, dans telle province, dans telle localité. Ce qui nous fait qu'on aura une bonne coordination de la gestion de l'emploi dans le pays. Sinon, nous serons toujours là. De ce côté, on forme. De l'autre côté, on ne les prend pas parce qu'il y a incompatibilité. Mais on tourne en rond et c'est l'avenir de la jeunesse. C'est l'avenir de tout un pays qui est mis à mal parce que quelqu'un finit, il doit mettre 10 ans pour arriver à décrocher un emploi. À défaut, il va chez un Indien. Où il est mal payé, maltraité, il n'y a pas de dignité. Et en ce moment-là, dans son propre pays, qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire?
Bien.
Donc, si nous voulons être sérieux,
oui.
Nous pensons qu'il est temps, donnons la chance à cette République. Félicitations à la Première ministre et à tout son gouvernement. Ils ont fait un discours extraordinaire, mais nous attendons voir que chaque ministre puisse se mettre rapidement au travail et qu'il nous donne des réponses aux nombreux problèmes que nous avons au quotidien.
Bien, que faut-il faire pour créer plus d'emplois pour les jeunes en République démocratique du Congo? On en parle dans cette émission au Capi Service aujourd'hui, des questions et préoccupations. Composez les 099-706-9941, 099-706-9941. Yves Daniel, d'après certains, il est possible de créer plus d'emplois dans les secteurs du numérique aujourd'hui, surtout que les jeunes sont plus connectés sur Internet et il y a aussi beaucoup d'opportunités dans ces secteurs-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Bien sûr. Aujourd'hui, malheureusement, chez nous, le numérique s'arrête au téléphone, à WhatsApp et TikTok. On n'exploite pas à fond aujourd'hui le numérique chez nous. On a même un ministère aujourd'hui du numérique, mais poser la question au commun des mortels, mais le ministère du numérique, c'est quoi? Bon, je sais pas, ils vont vous dire non, c'est pour gérer WhatsApp et Telegram. Il y a un sérieux problème d'information sur d'abord la question du numérique. Aussi longtemps que le commun des mortels n'arrive pas encore à pénétrer ces mondes pour connaître le numérique, on ne pourra pas l'utiliser à bon escient. Aujourd'hui, quand vous regardez les pays qui ont compris qu'il faut investir dans le numérique, il faut investir dans l'informatique, ces pays ont facilité et simplifié beaucoup de choses dans leur vie de tous les jours. Donc, ce qui est vrai, aujourd'hui, il faut une sensibilisation d'abord sur le numérique pour que les gens comprennent c'est quoi le numérique et son impact sur la vie au quotidien et sur l'économie et sur dans tous les domaines, mais aussi tirer quelques éléments clés des numériques pour intégrer ça dans l'éducation. Déjà en commençant par l'école élémentaire, parce que vous savez, nos enfants d'aujourd'hui ont plus d'habilité à manipuler tout ce qui est technologie que les vieilles personnes. Tu peux donner à un enfant de 3 ans un téléphone, en 3-4 minutes il peut débloquer, il peut même commencer à jouer au jeu alors qu'il y a des vieux qui sont là, ils ne savent qu'envoyer des SMS et recevoir des appels. Ils savent même pas qu'il y a d'autres applications intéressantes qui se trouvent dans leur smartphone qu'ils n'utilisent pas. Donc, aujourd'hui, le numérique fait partie du domaine qui facilite et qui simplifie la vie. Et nous pensons que le ministère, je ne sais pas si ça a été retenu encore cette fois-ci, le ministère du numérique, doit aussi faire l'effort de communiquer au maximum, d'aller dans les écoles, aller dans les églises. Expliquer les bien fondés de ces ministères et quel est son apport par rapport à la situation du pays ou au vécu du Congolais. C'est en ces moments-là qu'on va avancer. Mais s'ils ne le font pas, ils sont là, oui, nous sommes ministère des numériques, mais vous faites quoi? Et les gens ne sont pas au courant, donc ça n'aura pas d'impact. Bon, et encore une fois de plus, une bonne sensibilisation. Et dès qu'on a une bonne sensibilisation, on va organiser des formations et on va présenter des opportunités. Et ça va attirer des gens, ça peut créer des emplois aujourd'hui dans notre pays.
Bien. Comment créer plus d'emplois en République démocratique du Congo? Appelez pour intervenir dans cette émission au 099-706-9941. Alors, dans les secteurs, on parle de l'agro-business aujourd'hui, qui est un secteur également porteur. Nous avons beaucoup de terres arables et que les jeunes peuvent aussi créer des emplois dans ces secteurs. Comment les encadrer et arriver à créer plus d'emplois dans l'agro-business? Yves Daniel, vous êtes là?
Oui, il y a une petite coupure, s'il vous plaît, je suis là.
D'accord, je disais, il y a aussi beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans l'agro-business. Comment accompagner les jeunes pour les aider à créer plus à faire l'auto-emploi, à créer des entreprises dans ces secteurs?
Oui, c'est un des secteurs clés, comme je l'ai dit tantôt. On parle tout le temps de l'agriculture. C'est devenu encore un grand slogan. Mais il n'y a pas assez de contenu. Il faut qu'on passe de l'agriculture simple à une agriculture intelligente qui va d'abord dans la formation des agro-multiplicateurs, par exemple. Quels sont les problèmes que nous avons dans ces secteurs quand vous allez à l'intérieur? Moi, je suis infirmier, je peux vous le dire. Les premiers problèmes, c'est que les agriculteurs chez nous ne sont pas formés. Ils utilisent toujours les techniques ancestrales. Et ce qui fait qu'ils ont du mal à produire suffisamment. Ils produisent des petites quantités. De deux, ils ne sont pas équipés. Il n'y a pas assez d'équipement. Il y a eu des projets avec des tracteurs qu'on a remis dans les territoires, mais qui sont restés des carcasses, soit dans les bureaux, dans la maison de l'administrateur du territoire, ou dans les maisons des politiciens qui ont mis ça dans leurs fermes, et ça n'a pas servi à la communauté. Donc, il faudra aujourd'hui avoir une politique qui ramène des outils vers le vrai utilisateur et qu'ils en servent véritablement pour pouvoir augmenter les capacités de production. Mais il y a aussi un sérieux problème de semences. Vous allez voir quelqu'un, il utilise la même bouture de manioc trois, quatre fois et le rendement baisse. Alors que nous avons des boutures améliorées aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas avoir à part l'INERA qui n'est pas partout, qu'on ne sait pas avoir sous l'étendue de la République. Il faut des agro-multiplicateurs, les espaces où on peut reproduire ou produire des semences de qualité et distribuer effectivement aux agriculteurs. Mais quand ils produisent, il y a aussi un problème de transformation. Aujourd'hui, on peut beau produire, mais si on ne sait pas transformer, beaucoup de produits agricoles sont périssables. Donc, on va se retrouver avec des produits qui périssent parce que ils savent pas les transformer. Mais il y a également un problème de route pour évacuation ou les routes ou encore les bateaux dans certains milieux pour pouvoir évacuer jusque dans les centres de consommation.
D'accord. Donc, Yves Daniel, un instant.
Une très bonne politique.
Oui. Un instant, on va accueillir Emmanuel Nsinga de Kinshasa. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'interviens parce que le sujet, je l'ai trouvé vraiment très pertinent. Je voulais ici dire à l'invité, voire même à vous, par rapport au sujet, les vrais problèmes que nous avons ici. Moi, j'estime que ça va d'abord de la base, donc la qualité de la formation que nous donnons aux enfants. Si vous remarquez, les programmes que nous utilisons ici, c'est un programme qui nous a été légué par la Belgique. Au niveau de la maternelle, l'enfant, nous envoyons l'enfant à l'école pour apprendre. Il va apprendre quoi et avec pour quel objectif? Vous allez imaginer, dans nos écoles maternelles, l'enfant, on l'envoie à l'école, et à l'école maternelle, on apprend à l'enfant seulement, ce sont des chants, taper les mains, faire ceci, des récitations et qu'on sort. À l'école primaire, donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voulais dire que les programmes au niveau de l'EPST, au niveau de notre ministère de l'Enseignement, on doit revisiter ces programmes-là. Les programmes sont devenus obsolètes. Un programme qui ne répond plus aux besoins de notre communauté. Je parle ici en tant qu'un enseignant. Nous, quand nous étions à l'école, des choses qu'on nous apprenait. Des fois, même l'enseignant qui nous donne cours, par exemple, les cours de chimie, il dit l'atome d'hydrogène associé avec l'atome de tel. Mais des fois, même l'enseignant en question n'a jamais vu l'atome d'hydrogène, n'a jamais manipulé. Donc, on nous donne des informations comme si nous suivons ça à la radio. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse d'abord... Parce qu'avant d'aller parler de création d'emplois, tout ça, l'enfant doit d'abord être bien formé. Les programmes que nous utilisons, est-ce que ça répond, ça donne la chance à nos enfants de créer des emplois, donc, ou bien de trouver de l'emploi facilement? Nous avons par exemple à l'Équateur, vous prenons par exemple cette session des examens d'État. Quand vous faites les statistiques, vous allez remarquer que les 80%, je dirais, ce sont des enfants qui font par exemple la pédagogie littéraire, scientifique. C'est pour quel objectif ces enfants-là? On forme plus de chômeurs, un enfant qui fait la pédagogie, alors que la communauté ou l'État congolais n'a pas besoin de pédagogues pour le moment. L'enfant fait la pédagogie, vous lui demandez, vous faites la pédagogie pour devenir enseignant ou enseignante. Il dit non, je ne serai pas enseignant ou enseignante, je vais changer à l'université. Quand il va à l'université, il fait, c'est le domaine qu'il va appliquer, qu'il va aborder. À la fin de ses études, il revient, il a fait la médecine. Il n'y a pas des hôpitaux où l'enfant n'est pas en mesure de travailler. Vous allez le trouver, il crée une cabine, il crée des shops, des histoires comme ça. Quelqu'un qui a fait les droits, incapable de défendre un procès, il devient un motard, par exemple. Il y a des licenciés qui sont sur les motos ici à la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que les ministères de l'EPST puissent réviser, voire même au niveau des universités, qu'on puisse voir quel est le besoin que nous avons? Les Belges, quand ils sont venus avec ces programmes-là, ils savaient qu'il n'y avait pas assez d'intellectuels au Congo. Et ils savaient qu'ils avaient besoin des charpentiers, par exemple, et des maçons pour construire des églises et des paroisses et consorts.
Merci Emmanuel. On n'a plus beaucoup de temps. On est presque à la fin de cette émission. Yves Daniel, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ses préoccupations?
Oui, je crois qu'il aborde pratiquement dans la même direction que nous en ce qui concerne la réforme. Aujourd'hui, nous devons plus faire la promotion de l'enseignement technique professionnel que l'enseignement ordinaire, comme il dit. Quand vous formez un pédagogue aujourd'hui, pour qu'il puisse avoir de l'emploi, il faut attendre 40 ans parce qu'un enseignant dure au moins 40 ans pour aller en retraite. Donc, vous allez former des gens qui doivent attendre 40 ans pour remplacer un vieux enseignant, et les enseignants traînent, nous le savons. Donc, c'est une perte d'énergie et c'est une perte des ressources. Donc, aujourd'hui, si on veut avoir une société assez cohérente, assez réaliste, nous devons revoir ce que nous donnons à nos enfants. Comme je l'ai dit dans mon ouvrage « Créer son entreprise sans argent », c'est l'âme d'une nation et le reflet de l'éducation de sa jeunesse. Donc, si nous voulons voir l'âme de notre pays, il faut seulement voir qu'est-ce qui reflète l'éducation qu'on donne à nos jeunes. Travaillons aujourd'hui pour d'abord une éducation de qualité, une éducation objective, pas une éducation de fait, parce qu'on veut seulement que les enfants aillent à l'école pour avoir des diplômes, mais nous les formons avec des objectifs clairs pour que demain, ils soient des acteurs de développement pour changer la situation du pays dans tous les secteurs de la vie. Et c'est en ce moment-là qu'on aura aussi la possibilité d'avoir des emplois, parce que les emplois doivent se préparer dès l'école primaire. Dès que l'enfant commence à apprendre, on le prépare déjà pour que demain, il soit capable d'être employé quelque part ou de créer lui-même un emploi pour aider la société. Et si on laisse de côté les systèmes éducatifs et on attend qu'on a des diplômés, on cherche maintenant à réfléchir comment créer des emplois avec un système qui n'est pas très anachronique que nous avons actuellement, la disjoncture entre le secteur de l'emploi, l'éducation, les entreprises publiques et privées, il n'y a pas une symbiose, il n'y a pas une concertation régulière pour nous produire des bulletins en termes de besoins des emplois et des compétences à créer. En ce moment-là, on va toujours être dans ces cercles viciés. On acquise telle structure, on acquise l'enseignement, on acquise le ministère, on acquise le gouvernement.
Merci oui. Daniel, on a pris beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes coach en entrepreneuriat, en création d'entreprise. Merci d'avoir été des nôtres. On pourra poursuivre cet entretien prochainement. À la prochaine.
Je vous remercie, Monsieur Joby.